Chapitre 2. Où l'on voit que la déduction peut devenir une vraie science. Le lendemain, après nous être retrouvés au rendez-vous convenu, nous nous rendîmes, Sherlock Holmes et moi, au numéro 221 de Baker Street pour visiter le logement dont il avait été question. Il se composait de deux chambres à coucher très confortables et d'un grand salon bien aéré, élégamment meublé et éclairé par deux larges fenêtres. L'ensemble était si séduisant et le prix si modique, du moment où nous en payions chacun la moitié, que l'affaire fut conclue sur le champ. Comme nous pouvions entrer immédiatement en jouissance, je transportai le soir même toutes mes affaires dans notre nouvel appartement, et le lendemain matin, je vis arriver Sherlock Holmes avec un assez grand nombre de malles et de caisses. Pendant deux ou trois jours, nous fûmes uniquement occupés à déballer tous nos bibelots et à les disposer de manière à les mettre le mieux possible en valeur. Ces arrangements préliminaires terminés, nous commençâmes à nous sentir installés et à nous familiariser avec notre nouveau domicile. Holmes n'était certainement pas un homme difficile à vivre. Calme d'allure, régulier dans ses habitudes, il se couchait rarement après 10 heures du soir et chaque matin, en me levant, je constatais invariablement qu'il avait déjà décampé après avoir pris son déjeuner. Parfois, il passait la journée dans le laboratoire de chimie, parfois dans la salle de dissection, ou bien encore, il faisait de longues promenades dont l'objectif semblait toujours être les quartiers les plus misérables de la ville. Rien ne peut donner une idée de son activité lorsqu'il était dans une période agissante. Mais au bout de quelque temps, la réaction se produisait et pendant des jours entiers, il restait depuis le matin jusqu'au soir étendu sur un canapé du salon, sans, pour ainsi dire, prononcer une parole ou remuer un membre. Dans ces moments-là, ses yeux prenaient une expression si rêveuse et si vague que je l'aurais certainement soupçonné de se livrer à l'usage d'un stupéfiant quelconque. Si sa sobriété exemplaire et la moralité parfaite de sa vie n'eussent protesté contre une semblable supposition. Les semaines se succédaient et je sentais ma curiosité devenir de jour en jour plus vive à l'endroit du but qu'il pouvait bien donner à son existence. Tout son extérieur, d'ailleurs, était fait pour impressionner à première vue l'individu le moins observateur. D'une taille élevée, il avait plus de 5 pieds et demi. Sa maigreur le faisait paraître bien plus grand encore. Ses yeux étaient vifs et perçants, excepté pendant ces périodes de torpeur dont j'ai parlé plus haut, et son nez, mince et recourbé comme le bec d'un oiseau de proie, donnait à son visage une expression décidée, jointe à un air de pénétration remarquable. La forme carrée et proéminente de son menton contribuait aussi à dénoter chez lui une puissance de volonté peu commune. Ses mains étaient là constamment couvertes de taches d'encre et de brûlures produites par les acides chimiques. Et cependant, il avait une adresse extraordinaire.